Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story Canal 23 et en podcast. Et d'ailleurs, merci à vous puisque nous venons de battre notre record de téléchargements, 741 000 téléchargements au mois de janvier, plus 80% par rapport à l'année dernière, et c'est grâce à vous. Donc merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, nous regarder et nous podcaster. Et aujourd'hui, vous devriez être encore plus nombreux parce qu'on a une dream team autour de la table avec tout d'abord Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
On a le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Salut Thierry.
Bonjour à toutes, bonjour Estelle, bonjour à tous.
La journaliste indépendante de Dijon, oui. Emmanuel Dancourt. Salut Emmanuel.
Salut, et là malgré la grève.
Oui, et malgré les tracteurs qui
sont encerclés
RMC.
Je suis venue en tracteur en fait.
C'était plus sécure. Oui. Oui, puis c'est la région, tout ça.
Oui,
et puis Fred Hermel, notre journaliste maison.
Qui a applaudi les tracteurs dans la rue, bien entendu. Comme tout bon paysan qui se respecte.
Okay.
Bonjour les amis.
Eh bien écoutez, on en parlera dans l'émission. Au sommaire aujourd'hui, Laurent Berger, le patron de la CFDT, contre les blocages et un durcissement du mouvement contre la réforme des retraites. D'accord ou pas d'accord avec lui? On vous attend au 32-16. On parlera à 13h de Total qui réalise un record 20 milliards de bénéfices. Faut-il taxer les super profits? 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On reviendra sur Adrien Quatennens qui a pris la parole hier à l'Assemblée mais qui a été hué pendant de nombreuses minutes. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On s'intéressera à la fin des prospectus en papier et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bonne nouvelle pour tout le monde. À 14h, nous sommes à 6 jours de la Saint-Valentin et on se posera cette question. Faut-il avouer une infidélité à son conjoint? 46% des hommes français ont déjà été infidèles. Et oui. Et puis on vous fera gagner écoutez, un cadeau extraordinaire, Rémi, et je pèse mes mots. Rémi?
Oui, pardon, on parlait en même temps.
Je suis en train de vous dire que c'est un cadeau extraordinaire.
Oui, tellement extraordinaire. On est en train de me parler. Vous le savez, RMC vous offre vos places pour les meilleurs matchs de foot. Et à partir d'aujourd'hui, nous vous offrons les toutes dernières places pour le choc PSG Bayern. Ce sera le 14 février prochain, 8e de finale de la Ligue des Champions. Vous restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC. On me le disait, on n'a pas le son, mais lorsque vous entendrez une alerte sonore, eh bien vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Restez bien à l'écoute, ça peut tomber à tout moment.
RMC, Estelle Midi.
Minicis sur AMC et on va démarrer avec l'actualité du jour. C'est bien sûr la mobilisation en baisse contre la réforme des retraites. Et alors que Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a appelé à un durcissement du mouvement hier, ce matin, Laurent Berger, le patron de la CFDT, demandait lui à continuer la mobilisation dans le calme et de manière responsable. C'était l'invité d'Apolline de Malherbe.
Et la mobilisation, elle est à l'Assemblée, elle n'est pas dans la rue. Quand autant de gens, collectivement comme ça, disent cette réforme, il ne faut pas la faire, qu'il y a autant de monde dans la rue, on peut pas rester sourd. Si on reste sourd, ça pose un problème démocratique. Bien sûr qu'il y a un risque que ça dégénère. On est dans un moment où on a l'opinion avec nous et on a la mobilisation
mais
avec
si
nous.
Si le gouvernement persiste à ne pas vous appeler...
Mais le gouvernement, s'il persiste, mais c'est pas une question de m'appeler simplement, s'il persiste dans la voie qui est la sienne aujourd'hui, il fait une faute démocratique qu'il paiera très cher.
Il y a un risque que ça dégénère, selon Laurent Berger. On peut s'attendre à quoi samedi, Rémi, ces journées de mobilisation encore?
Alors, bien malin qui pourrait le deviner, mais ce qui est sûr, c'est que l'ampleur de la mobilisation sera déterminante pour la suite du mouvement et surtout pour le rapport de force au sein de l'union syndicale, union jamais vue depuis plus de 10 ans. Pour le moment, c'est la CFDT qui a la main et qui privilégie la méthode plutôt douce, l'appel à la grève lancé dans un premier temps pour samedi à la SNCF, jour de départ en vacances, a ainsi été annulé. Les discussions ont été vives entre les syndicats de cheminots. Et finalement, c'est la position de la CFDT qui l'a emporté. Pas question de prendre le risque de braquer l'opinion en perturbant les vacances, un jour de départ. C'est ce que veut le syndicat ce week-end. En fait, c'est une démonstration de force populaire avec des cortèges bon enfant, festifs, sans violence et surtout en regroupant des familles et des rues noires de monde. Il faudra qu'il en soit ainsi parce qu'au soir de cette journée de mobilisation, si jamais elle s'avérait décevante en nombre de manifestants, bien l'équilibre syndical pourrait être remis en question. On le sait, le patron de la CGT, Philippe Martinez, a déjà appelé à plusieurs reprises ces derniers jours à durcir le mouvement. Et pour l'instant, l'union syndicale, l'unité, elle tient, mais elle pourrait voler en éclats si certains se radicalisent. Et certaines fédérations de la CGT, dans les raffineries, dans les centrales nucléaires, sont d'ores et déjà prêtes à vouloir monter d'un cran la pression avec des grèves reconductibles et des blocages.
Alors, le blocage est-il la dernière solution ? Je m'adresse à vous, Fred Hermel.
Ah, c'est vraiment très très compliqué pour les syndicats. Parce qu'on voit bien que Laurent Berger, tout comme la CFDT, il a une hauteur de vue. C'est vraiment quelqu'un de bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce leader syndical et j'espère qu'un jour il aura des responsabilités politiques. Mais quelque part, il a tort parce que on voit très bien que ces grèves là ne gênent plus grand monde. Que les manifestations,
personne même.
Voilà, elles sont jolies, etc. Mais finalement, ça change pas grand-chose et qu'il n'y a que de la radicalité qui pourrait peut-être déranger le gouvernement. Mais en même temps, la radicalité ferait exploser cette unité syndicale qui est une, tu l'as précisé, une nouveauté.
Philippe Barthès, c'est ce qu'il veut. Donc si Laurent Berger dit oui,
mais oui, sauf que CFDT va pas suivre si ça se radicalise. Ouais. Voilà, donc il y aura plus ce front syndical et en plus l'opinion qui est plutôt majoritairement en faveur
qui trouve ce mouvement sympathique,
qui trouve ce mouvement sympathique changera d'opinion. Donc vraiment la situation elle est compliquée et je pense que le seul vrai gagnant, quelle que soit la décision qui va être prise, va être le gouvernement, parce que s'il y a radicalité qui pourrait le faire bouger, il n'y aura plus union syndicale. C'est vraiment un chemin. Alors en psychanalyse on appelle ça une double contrainte. Quel que soit le chemin que tu prennes, il y a échec au bout.
Emmanuel Dancourt, est-ce que tout va jouer samedi ? Parce que samedi, on le sait, beaucoup de gens ne travaillent pas et vont pouvoir aller manifester. Est-ce que là, s'il y a vraiment une démonstration de force, hein, je pense à 3 millions de personnes dans la rue, ça peut faire bouger le gouvernement finalement ?
Ça, c'est la vraie question. Ouais. Et comme dit Rémi, bien malin qui saura y répondre. Ouais. Mais après, moi, je suis d'accord, il ne faut pas aller vers une radicalisation. Et j'entends tout ce que tu dis. Hein. Mais il ne faut pas aller vers une radicalisation, sinon les familles ne vont pas manifester. Or, une famille, c'est tout de suite 4 personnes. Ça fait du monde.
Et chez vous, c'est beaucoup plus.
Au bout d'un moment. chez moi, on est 27. Mais ça, voilà, moi, si j'entends qu'il y a des risques de violence, que ça risque de se radicaliser, c'est fini, je ne sors plus de chez moi. Et pourtant, il y a quand même des choses à dire sur cette réforme, notamment concernant les femmes, qui sont quand même les grandes perdantes. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille aller vers la radicalisation. Et quand tu dis, Fred, en même temps, est-ce que ce n'est pas la manière de se faire entendre ? Mais le front syndical va se fissurer, comme tu le dis très bien. Donc, personne ne va se faire entendre au final et ça va faire plus. Ça va tomber à l'eau.
Oui, mais radicalisation, attention, on a toujours en tête des images violentes. Mais la radicalisation, c'est aussi les blocages. Mais tu peux mieux bloquer une société, par exemple, en faisant grève pendant une heure. Si tout un service fait grève, chacun à tour de rôle pendant une heure, tu ralentis le service. Ça, c'est du blocage. Mais c'est pas du blocage violent, quoi.
Est-ce que tu vas pas te mettre l'opinion publique à dos alors qu'on a on a 75% de la population qui est vent debout contre cette réforme, qui potentiellement peut aller dans la rue. Si tu te les mets à dos, enfin si nous
mais si t'as 3 métros, alors, 3 métros
vous, c'est
sur
votre
4,
départ en vacances, samedi. Moi je suis déjà en vacances, mais vous c'est votre départ en vacances. Si ça les bloque, toute l'opinion publique va se retourner, quoi.
Mais si la France est au ralenti, je te donne un exemple, la RATP par exemple ou la SNCF, si tu mets 3 trains sur 4 au lieu de 4 sur 4, oui, tu vas gêner mais une minorité de gens finalement, la majorité ne va pas être gênée. Tu bloques partiellement. Donc à la fois tu ennuies, mais t'ennuies pas trop. Donc c'est une radicalisation, mais quand même non violente.
C'est marrant parce que la RATP, ça ne touche que vous, hein.
Ça ne touche que les Parisiens. Voilà.
Et ça ne touche finalement que les entreprises publiques, là où la CGT a ses bastions. Parce que dans le privé, il y aura pas ça dans le privé.
Non. Ah ben si, je connais des entreprises où il y a eu ça, où en fait les salariés sont mis en grève, mais une heure ou deux en fait, et tu ralentis un service. Oui. Tu n'impactes pas méchamment, mais tu impactes quand même.
On impacte quand même économiquement. Oui. L'entreprise. Donc moi je pense que Berger a raison, Laurent Berger a raison, ce qu'il appelle la France du travail raisonnable. Face au jusqu'au-boutisme de Philippe Martinez et de la CGT, je pense qu'il a déjà dit, mais que ce qui peut faire, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que ce qui peut faire bouger le gouvernement, c'est une mobilisation massive, populaire, qui grossit semaine en semaine, sans heure, qui touche les préfectures et les sous-préfectures.
Mais là, ça grossit pas semaine en semaine, ça a baissé.
Parce que c'était en semaine. Vous verrez que là, on parle d'une mobilisation du week-end.
On fait un pari à 3 millions ce week-end ?
Et si, je pense qu'il y aura plus de monde que la dernière fois, notamment le 31. Que le 19, pardon. Ouais. Parce que pourquoi ? Ça va toucher les préfectures, les sous-préfectures, donc l'électorat des députés qui vont voter ces lois. Donc ils auront ça peut les faire bouger. En revanche, si on bascule dans un blocage ou une radicalisation, là, ça va, il va y avoir deux phénomènes. Tu l'as très bien dit, la perte de l'opinion. Et ça, c'est terrible parce que l'opinion peut se retourner en un claquement de doigts. Il suffit que des gens râlent et qu'on les voit
sur
l'échelle.
Mais c'est pas pour ça que l'opinion sera en faveur de la réforme des retraites.
Ah, mais ça, non. Mais en revanche, ils seront contre la chienlit. Voilà. Et là, ça donne toute l'attitude au gouvernement de rétablir la loi et l'ordre. On arrête les frais, on arrête les dégradations. Parce que je suis désolé, quand on commence un blocage, le blocage peut s'étendre. Parce que si ça fonctionne pas, pourquoi pas l'étendre un peu plus. Et on va jusqu'aux dégradations. Ça, on le sait très bien, c'est un engrenage infernal. Donc le gouvernement a alors toute la main pour reprendre la main, dire on arrête les frais, on arrête la chienlit, 49-3, comme ça c'est plié, terminé, et on renvoie tout le monde chez soi. Donc je pense que ce serait dangereux. C'est dangereux, et je trouve que Berger ce matin aussi dans l'interview d'Apolline de Malherbe, il a renvoyé les politiques à leur travail en disant travaillez à l'Assemblée et arrêtez d'aller dans les manifestations. Il faisait notamment référence au député Louis Boyard qui va haranguer les étudiants plutôt que d'être à l'Assemblée. Je pense que c'est chacun son travail. Là, l'unité syndicale, elle fonctionne très bien. Encore une fois, si ça a augmenté, c'est massif, ça peut faire bouger le gouvernement ou au moins améliorer le texte. C'est comme ça là, le fond du problème.
Alors, on va voir s'il y aura beaucoup de monde samedi dans la rue. On va voir déjà du côté de nos auditeurs qui nous appellent bien sûr au 32-16. Et il y a Damien qui est chauffeur-livreur à Margaux Cantenac en Gironde. Bonjour Damien.
Salut Estelle, salut l'équipe.
Bonjour. Damien, est-ce que vous êtes mobilisé pour samedi?
Oui. J'ai pas pu y aller hier parce que c'est les vacances et que je vais profiter un petit peu de mon fils.
Bien sûr.
L'inconvénient d'être papa divorcé, enfin, bref. Mais par contre, samedi, je serai dans la rue et j'espère voir un beau défilé comme le 19 et comme le 31. Et que ça fasse réagir les politicards véreux qu'on a au gouvernement.
Oui, alors là, Damien, on peut pas, là ça n'a rien à voir, on peut pas dire des choses comme ça. Damien, je vous dis, j'espère que ce sera un beau défilé, c'est-à-dire que pour vous, un beau défilé, c'est un défilé sans violence, où on défile en famille, dans une ambiance bon enfant, dans le calme.
Dans le calme. Je suis un ancien gilet jaune. J'ai fait un très beau premier week-end de gilet jaune, magnifique, où tout s'est bien passé.
C'est vrai.
Il y avait des blocages sur les routes, il y avait des prises d'endroits qui étaient sympas, qui étaient festives. Malheureusement, ça s'est un peu perverti. Mais j'espère avoir autant de monde que lors du premier week-end des gilets jaunes. Pour que ils s'aperçoivent de leurs bêtises.
Ouais, mais ce qui est terrible, en fait,
moi qui ai commencé à bosser à 17 ans, si je suis jusqu'à 64 ans, je vais avoir cotisé 47 ans.
Ben non.
Alors, mais ce sera pas votre cas, Damien.
On va me dire que je vais avoir le droit de partir à 42, à 62, mais ça fera quand même 45 ans de cotisation.
Oui.
Donc j'aurais cotisé plus que certains qui vont être.
Oui, c'est possible, mais par exemple, alors effectivement, il y en a qui disent, les médecins, ils vont cotiser moins, puisqu'effectivement, comme ils arrivent dans le marché du travail à 30 ans, c'est compliqué de leur demander de bosser jusqu'à 73. Mais après, les situations sont différentes pour tout le monde. Mais Damien, vous faisiez un parallèle avec les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, en fait, ils ont commencé à obtenir gain de cause et finalement commencé à se faire entendre quand ça a dégénéré dans la rue. Parce qu'avant, on parlait d'une très belle manifestation, et c'est vrai, les Français étaient majoritairement favorables aux gilets jaunes. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue, c'était très bon enfant, mais à ce moment-là, le gouvernement, il vous a pas entendu.
Si l'opinion doit changer, elle changera, et elle changera massivement. Quand on a commencé, certes, c'était joyeux, festif, on n'a rien obtenu. Quand ça a commencé à casser, effectivement, alors, ils ont promis des choses.
Je vous incite pas à casser, hein, mais...
Non, je fais pas partie de ces gens-là. Je fais partie des gens raisonnables. Pourtant, j'ai vu quelques belles horreurs pendant certaines manifs. Enfin bref, pour moi, si ça doit dégénérer, c'est l'ensemble des manifestants ou une grande partie des manifestants qui viendra à changer de position. D'accord. Ça sera pas des petits groupes par-ci par-là. D'accord. Comme il y avait pendant les gilets jaunes.
Ok, ben, eh ben merci beaucoup en tout cas Damien d'avoir été avec nous au 32-16 et bonne manif samedi du côté de Bordeaux. Benjamin Morel est notre invité sur ce débat, maître de conférence à Paris Panthéon Assas et docteur en sciences politiques. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous Benjamin dans Estelle Midi. Bah, la question qui se pose maintenant c'est faut-il durcir le mouvement pour se faire écouter en tout cas de la part des syndicats, parce qu'on voit que pour l'instant malgré la mobilisation dans la rue, le gouvernement reste inflexible.
Bah, il faut bien comprendre que tous les mouvements sociaux qui ont fonctionné dans notre histoire, que ce soit 95, que ce soit la loi Savary, que ce soit le CPE, vous avez toujours un peu le même schéma, c'est-à-dire que vous avez certes des manifestations, mais vous avez surtout des blocages, des points qui posent problème à une majorité parlementaire avec une opposition qui fait de l'obstruction pour laisser le temps au blocage de s'enquister à la situation, eh bien, de fragiliser la majorité. Et vous avez une opinion qui soutient ces blocages. Et dès le moment où l'opinion soutient, où les blocages sont structuraux, à ce moment-là, vous avez une majorité qui se divise, parce qu'en soi, elle est déjà divisée. Hein. La loi Savary, c'est les différentes tendances de la gauche par rapport à l'évolution du quinquennat Mitterrand. En 95, c'est Balladurien contre Chiracien. On est sur la majorité qui a été élue en 93. Et sur le CPE, bah, c'est Villepiniste contre Sarkozyste. Et là, on a une majorité qui n'est pas absolue et qui, en plus, est très divisée. Ouais. Donc, en effet, là... je dirais, le durcissement du mouvement peut avoir cet effet.
Pour l'instant, Fred Hermel le disait, de toute façon, quel que soit le cas de figure, le gouvernement est gagnant. C'est aussi votre sentiment ?
Pas forcément. C'est-à-dire que quand vous regardez, justement, ces vieilles grèves, entre guillemets, 95, etc., vous vous rendez compte que quand vous avez un durcissement du mouvement, quand ça s'enquiste, eh bien, c'est pas forcément les syndicats qui sont blâmés. C'est d'abord et avant tout le gouvernement, surtout quand le projet de loi n'est pas senti à tort ou à raison comme étant un projet de loi légitime, hein, c'est ce qu'aujourd'hui nous disent les enquêtes. À ce moment-là, le gouvernement est jugé comptable de l'enquistement parce que c'est lui qui s'entête.
Alors on a beaucoup d'appels, restez avec nous hein, Benjamin Morel, beaucoup d'appels d'auditeurs qui vont manifester samedi. On a Franck qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Franck.
Bonjour à vous, à toute l'équipe.
Bonjour. Et Franck, vous serez dans la rue, comme notre auditeur précédent d'ailleurs, Damien, vous serez dans la rue à Bordeaux samedi. Est-ce que vous êtes allé manifester les autres jours, Franck ?
Non, j'ai pas été parce que par rapport au boulot, donc là c'est plus simple pour moi de trouver le créneau, d'y aller sans... Voilà, de façon viable, sans perdre d'argent. Et voilà, mais pour ce qui me gêne le plus dans la réforme, j'étais déjà intervenu sur la façon de faire et le délai. Moi, ce que je pense, c'est que Fred a raison dans son analyse, mais cependant, moi, j'irai plus loin et je pense pas que l'État a tout à gagner. Parce qu'en fait, si demain, il passait en force, je pense que les gens seront dans la rue, mais plutôt pour un problème de liberté, parce qu'ils seront tout en train de passer au forceps, au 49-3. Et enfin, moi, si ça passe au forceps, j'irai manifester, mais ça sera plus pour la réforme des retraites, c'est pour un abus de pouvoir, quoi.
Oui, mais je pense après, Franck, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah, puisque de toute façon c'est fait, il n'y a plus besoin d'aller manifester. Malheureusement pour vous, hein, j'ai envie de dire, là c'est si le gouvernement reste inflexible.
Franck a raison, c'est le gouvernement veut l'éviter vraiment, hein, parce que au niveau de l'image, le 49-3, donc je comprends ce que veut dire Franck. Après, j'imagine pas une levée bouclier contre une réforme. Qui serait constitutionnel, parce que 43 c'est permis par la loi. Donc,
exactement. Benjamin Morel, justement, vous pensez que les gens peuvent se rebeller s'il y a 49-3?
Alors le 49-3, actuellement, en première lecture, je vois mal comment est-ce qu'on l'évitera. Donc ensuite, ça dépend comment est-ce qu'il est annoncé, comment est-ce qu'il est politisé, et comment est-ce qu'il est perçu, justement, comme étant un coup de force. Il y a deux possibilités qui seraient en défaveur du gouvernement. Alors la bonne possibilité pour lui, ce serait que le 49-3 passe, et que après, il se passe comme souvent les mouvements sociaux s'étaient, c'est-à-dire la loi étant votée, contester la loi devient moins mobilisateur, et le mouvement s'étend tout doucement. Après, vous avez aujourd'hui d'autres revendications sur le pouvoir d'achat, etc. Le risque, c'est que cela fasse boule de neige et qu'on ait une forme de gilet-jaunisation du mouvement avec des violences. Et là, gérer la situation sans interlocuteur tout à fait évident, avec une crise profonde le sentiment qu'on ne peut pas avoir de voie de dialogue, justement, eu égard à la façon dont cette réforme est passée, ça devient compliqué. L'autre risque, peut-être plus lancinant, plus à long terme, et écoutez Marine Le Pen, il y a deux jours, elle évoquait ce sujet-là, et on essaie de contre-capitaliser dessus. C'est une forme de creusement du syndrome 2005, hein, souvenez-vous, le référendum sur le TCE. Vous avez une opinion très défavorable aujourd'hui à la réforme. Cette réforme passe quand même. Si cette réforme passe quand même dans une situation de relative politisation de l'opinion aujourd'hui, hein, c'est assez rare pour le souligner, eh ben, soit vous considérez que vous ne pouvez pas faire valoir votre avis et vous vous réfugiez dans l'abstention, soit vous ne finissez par ne plus croire en la démocratie et on a une radicalisation d'opinion progressive qui aujourd'hui nous pend au nez, à nous d'ailleurs, comme tous les pays européens.
Bah merci beaucoup en tout cas Benjamin Morel d'avoir été avec nous sur ce débat. Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC.
Message par exemple de Johan qui nous dit autant je pense que monsieur Berger s'avance beaucoup sur l'adhésion de tous les Français à ces mouvements, autant je pense qu'il est dans le vrai concernant le fait de ne pas durcir et surtout de ne pas commettre des actes de violence lors des rassemblements. Autre message par exemple de Estelle.
Oui.
Une autre.
C'est pas moi, j'ai pas eu.
Non. Et qui nous dit je pense que la mobilisation de samedi effectivement sera déterminante s'il y a du monde dans la rue, s'il y a vraiment plusieurs millions de Français à travers tout le pays, ça pourra faire pression sur le gouvernement, mais je crains qu'une radicalisation, des blocages, des mouvements de grève reconductibles ne nuisent à l'union syndicale.
Alors on parle beaucoup des manifestations à Paris, mais c'est vrai que ça se mobilise beaucoup en province également. Emmanuel, vous êtes à Dijon. Dijon, on sait que ça avait été très actif au niveau des gilets jaunes, oui. du côté de Dijon. Est-ce que là, vous sentez la même mobilisation ou pas du tout?
Moins.
Ah oui.
Pour être honnête. Alors, est-ce que ça tient juste à Dijon? J'avoue que je n'ai pas regardé ce qui se passe.
Après, les gens ne sont pas sur les ronds-points, c'est peut-être moins visible aussi.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, pour moi, c'est samedi qui va être déterminant parce qu'on les a entendus, nos auditeurs disent excusez-moi, moi je travaille, je ne peux pas.
Ouais.
J'attends, moi, de voir ce qui se passe dans ma ville à Dijon samedi. Et là, je trouve que ça nous donnera. Dijon, c'est une ville moyenne. Hein, ça nous donnera un bon baromètre dans ces villes moyennes. Je ne parle pas de Lyon, Nantes, Marseille, voilà, Lille, Paris. Les villes moyennes. Oui, pas Bordeaux évidemment, Nancy, Limoges, Dijon, toutes ces villes-là, voyons comment ça réagit et là on aura une bonne idée je pense de l'engagement des Français.
Jean-Marc est avec nous, il nous appelle de banlieue parisienne, de Sarcelles dans le Val-d'Oise. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc,
bonjour.
Vous êtes retraité, est-ce que vous allez manifester samedi?
Eh ben non.
D'accord.
Non, alors je précise, ça m'est arrivé de manifester, entre autres puisque quand on vous annonce que votre entreprise va fermer un CETEL, à titre indicatif, CETEL Cernam, les messageries de la SNCF, hein, 1600 personnes, comme on appelle ça,
licenciées.
Bon, ceci étant dit, je suis un peu de l'avis de Thierry Moreau, je pense qu'on n'a rien à gagner au blocage. De toute façon, si on va au blocage, de toute manière, il y aura des entreprises qui laisseront leur peau. Et surtout, comme l'a dit Thierry Moreau, de toute façon, Elisabeth Borne n'hésitera pas. Elle passera avec le 49-3.
Bah pas forcément s'il y a des violences et beaucoup de gens dans la rue. Regardez les gilets jaunes. Hein. On s'est dit oh là là, il n'y a plus l'adhésion de l'opinion publique, ça passera pas. Et finalement, c'est passé.
Oui, mais on n'est pas. Alors, j'étais adolescent en 1968. En 1995, je travaillais. Hein, je travaillais. On n'est plus à cette époque. On n'est plus à cette époque-là. Déjà, là, alors bien sûr, il y a les chiffres de la police et les chiffres des syndicats. Le nombre de si on peut dire, de participants commence déjà à
baisser. Parce que c'est en semaine.
Voilà. Oui. Alors, on pourrait dire, oui, bah, de toute façon, il parle, il est à la retraite. Bah oui, moi, j'ai commencé à 17 ans et 5 mois. Effectivement, j'aurais pu partir à 60. Et en plus, je rentre pas dans les détails, je suis parti à 61.
D'accord.
C'est sûr qu'effectivement, faire deux ans de plus. Bon, moi, j'ai pas le dossier en main. Est-ce qu'effectivement, on peut se permettre de continuer avec ce système-là?
Le gouvernement dit non et les manifestants disent oui. En fait, c'est toujours le. C'est
sauf que le gouvernement a une dette à gérer et que les manifestants, la dette, ça les dépasse complètement aussi. C'est ça aussi. C'est pas concret, la dette dans nos vies. On comprend pas de quoi on parle. Le gouvernement, il comprend très, très bien de quoi il parle.
Oui, puis en plus, à chaque fois, il y a des gens qui disent oui, mais le gouvernement distribue des chèques à tout va. Donc en fait, ils auraient assez d'argent pour la réforme des retraites. Enfin, chacun voit un peu midi à sa porte.
Bah, bien sûr.
Merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir été avec nous. Comme vous êtes très nombreux à nous appeler, bon, on va continuer. Tiens, dans un instant, sur ce débat, est-ce que bloquer est la dernière solution? Et puis, est-ce que c'est le jour ou jamais finalement samedi, est-ce que c'est le jour où il faut absolument se mobiliser? Continuer à nous appeler, à nous écrire. Rémi a plein de messages, on les dira juste après la pause. À tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
1031 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous êtes dans Estelle Midi. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 15h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, comme tous les jours avec Rémi Barré, pas comme tous les jours avec Thierry Moreau. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Fred Hermel. On parlait Ah, c'est le jingle, la Ligue des Champions.
Le jingle.
Incroyable jingle, Rémi, expliquez-nous.
Vous avez désormais 5 minutes pour envoyer foot par SMS au 7-32-16 et tenter de remporter les toutes dernières places pour le choc PSG-Bayern. Ce sera le 14 février prochain, 8e de finale de la Ligue des Champions. 5 minutes donc pour envoyer foot par SMS au 7-32-16.
Voilà, des places pour le match PSG-Bayern en Ligue des Champions. Nous, on va revenir sur la baisse de la mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de gens dans la rue hier. On se demande s'il faut désormais durcir le mouvement. Rémi, vous avez plein de messages. Et puis après, on prendra Pascal qui nous attend au 32-16.
Message sur Direct Studio, l'application RMC de Namusman qui nous dit « blocage égale ». Chômage généré par les syndicats, toutes les enseignes en redressement actuellement vont fermer. Donc chômage, il faut le dire, il faut absolument éviter le blocage économique du pays. Il y a François qui nous dit on n'a pas besoin de manifestants promeneurs, des primo-manifestants. Je lui laisse la teneur de ses propos. Hein. Pour obtenir les choses, regardez les bonnets rouges, les gilets jaunes, ils n'étaient pas des millions, il vaut mieux 300 000 personnes très motivées que plusieurs millions qui ne sont pas prêtes à faire bouger les choses.
Et justement, Pascal, il nous a écrit, il nous a téléphoné également, il est avec nous au 32-16. Bonjour Pascal.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Alors Pascal, on a bien compris que vous étiez contre la réforme. Pour l'instant, on a plutôt des auditeurs qui disent il faut continuer à manifester dans le calme, il faut être nombreux dans la rue. Vous, c'est pas du tout votre point de vue, hein, Pascal.
Non, hier, nous avons manifesté avec des amis. Moi, je suis retraité, je manifeste pour les autres. Je manifeste pour vous, je manifeste pour mes enfants, mes petits-enfants. Et on s'est promené hier. Il y avait du ciel bleu, il y avait du soleil. On a bu un pot après la manifestation. On s'est retrouvé au restaurant avant la manifestation. Ah, c'est un bon moment passé entre amis. On peut faire ça aujourd'hui, demain. On n'a pas besoin d'une manifestation pour faire la même chose. Donc ça ne bougera pas tant que ce sera trop calme. Vous avez lu un message d'un auditeur juste avant. Les bonnets rouges, les gilets jaunes ont obtenu des choses quand ils ont tapé les sous-préfectures, les préfectures en Bretagne, quand ils ont tapé à Paris. Voilà. Et là, le gouvernement se dit attention, ça peut déborder parce que c'était des mouvements. Ça tapait, mais ça restait raisonnable au niveau national.
Vouloir brûler des préfectures, c'est quand même pas, enfin, c'est pas très bon enfant, quoi.
Oui, mais enfin bon, on peut regarder ça à l'échelle historique. Hein.
Si on veut revenir à la religion française et avec des têtes au bout des piques, effectivement.
Bon enfant, quoi, du coup.
Oui, enfin, vous pensez que parce qu'on est en 2022, parce qu'on a un smartphone, on est 2023. Plus intelligent, 2023, on est plus intelligent que. Les gens de 1789 ou de 1630.
Non, mais je suis pas sûr qu'il faille revenir à la guillotine. Ce que dit Pascal, c'est que tout est dans le rapport de force. D'un côté, il y a le 49-3. De l'autre côté, je te brûle des préfectures. On aimerait que ça se passe pas comme ça. On aimerait qu'il y ait une écoute un peu plus attentionnée et plus immédiate du gouvernement pour ne pas avoir en arriver là. Moi, ça me terrifie quand j'entends ça. On se fait pas entendre tant qu'on n'a pas brûlé une préfecture.
Qu'il faut venir au fait quand même. Au plus on volait, on est passé à deux doigts du drame.
Oui, complètement.
Il a failli y avoir des morts. Il y avait 3 ou 4 policiers à l'intérieur de la préfecture. Il y avait quelques membres du personnel de la préfecture.
On peut pas être pour ça.
Et les pompiers sont intervenus, mais difficilement. Ouais. Et on est vraiment passé à deux doigts du drame.
Ouais. Et c'est vrai, Pascal, que vous êtes un peu minoritaire dans votre point de vue, parce que pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on entend, nous, en tout cas, au 32-16. C'est plutôt des gens qui veulent manifester, comme vous le dites, de manière bon enfant, quoi. On a l'impression que c'est plus très 2023 de vouloir aller brûler des préfectures, justement.
Oui, mais vous savez, la baisse du nombre de manifestants hier est sans doute due au fait qu'on est en période d'inflation forte.
Il y a beaucoup de gens
qui perdent une journée de salaire. Moi, je me rappelle des manifestations contre la réforme sous Sarkozy. Mon épouse, qui était fonctionnaire, a fait 9 manifestations, a perdu 7 jours de salaire d'enseignant. Ça fait mal sur la fiche de paye à la fin du mois. Et on n'avait pas l'inflation à cette époque-là qu'on a aujourd'hui. Donc,
c'est bien pour ça que le gouvernement, il s'en fiche de voir des gens dans la rue parce qu'il sait que ça ne peut pas durer longtemps.
Ben voilà, donc vous rejoignez mon point de vue, ça peut durer longtemps.
Non, parce que je n'appelle pas à aller bloquer des préfectures ni à aller les brûler. Oui.
Non, mais moi, j'appelle rien du tout. Moi, j'observe, j'analyse. Je ferai pas partie des gens qui iront brûler ou taper sur des CRS.
Ah ben, ça nous rassure. Oui.
Mais surtout à mon âge, hein, j'ai plus le temps de courir comme il y a 40 ans avec les CRS. J'observe, j'analyse. Dites-moi quand la rue a obtenu quelque chose en dehors des actes de violence des bonnets rouges, des actes de violence des gilets jaunes, pour prendre que des exemples.
Jamais.
Voilà, jamais. Donc, oui, on n'est pas en démocratie.
Justement. Excusez-moi. Justement, on a obtenu d'énormes avancées sociales en France. Nous sommes l'un des pays où il y a eu le plus d'avancées sociales depuis.
Ça s'est jamais fait dans la douleur.
Non, parce que les gens ont voté pour des partis. Vous savez, quand il y a eu la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé, les lois aux roues, je dirais en 81, parce que les gens majoritairement avaient voté pour Mitterrand.
Quand tu manifestes gentiment, t'as jamais rien.
C'est le butin de vote. Donc, quand Pascal dit qu'on n'est pas en démocratie, je suis désolé. Si on est en démocratie, et c'est grâce au vote qu'on a eu les plus grandes avancées sociales de l'histoire, c'est grâce au vote.
Excusez-moi, mais sur l'enseignement privé, la rue a eu raison du projet de loi de François Mitterrand. Il a reculé. Et là, c'était bien des manifestations familiales, bon enfant, sans dégradation. Donc, excusez-moi, il y a des exemples. Je pense justement.
Rappelez-moi l'année.
81.
Mais si samedi, il y a 3 millions de personnes dans les rues, je peux vous dire, et si à Dijon, mais aussi à Argentan, à Dole, et on ne va pas toutes les citer, les petites villes, il y a du monde, je pense que le gouvernement va réfléchir à infléchir son texte, voire à le vider de sa substance. Vous verrez.
Et en tout cas, merci à Pascal d'avoir été avec nous sur ce débat. Philippe nous appelle de Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Philippe.
Bonjour les gongles.
Estelle Midi,
ça dépend
des sujets. Nous, c'est les belles gueules. Philippe, est-ce que vous allez aller manifester?
Et non.
Ah bon? Parce que vous n'avez pas envie?
Je suis pour cette réforme.
Ah bah du coup, oui.
Voilà, je trouve, enfin, moi, ce qui me gêne beaucoup depuis longtemps, c'est qu'on n'a pas parlé d'alternative à trouver cet argent. Alors si, bien sûr, prendre de l'argent chez les riches pour le redistribuer, mais aujourd'hui, d'avoir autant d'impôts qui partent dans la réforme des retraites, ça veut bien dire que le système est pervers. Donc voilà, j'ai 59 ans, bientôt à la retraite, je vais sûrement faire 9 mois de plus, mais je me dis que c'est peut-être responsable de travailler un petit peu plus. Alors peut-être que je peux aussi peut-être plus facilement, mais aujourd'hui, personne ne parle d'alternatives financières, comment trouver cet argent pour avoir plus de personnes dans les hôpitaux, pour avoir plus de personnes dans les mairies, pour avoir plus de personnes qui partent à la retraite plus tôt. Je le comprends, c'est logique. Mais je vois pas comment on peut faire financièrement puisqu'on n'est que 28 millions à produire pour 66 millions d'habitants.
Bah merci Philippe en tout cas pour ce point de vue, parce que c'est vrai que là on ne parle quasiment que de l'âge de 64 ans. On me dit oui mais moi je veux pas faire 3 trimestres de plus, 4 trimestres, etc. Mais on parle jamais d'alternatives, de capitalisation par exemple, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui disent mais attendez, on peut aussi rajouter un petit peu de capitalisation là-dedans.
Fonctionnaires peuvent faire. On le rappelle.
Après, ça profiterait pas aux plus pauvres, ça.
Par essence, c'est pas pour les plus pauvres. Non, parce que plus pauvres, ils n'ont pas d'argent de côté pour eux dans 40 ans.
Et tu peux faire de capitalisation.
Oui, mais enfin, mais les plus pauvres, ils pensent déjà à bouffer chaque jour, quoi. Sûr. Donc, je veux dire, il y a un truc qui a été créé par le gouvernement qui s'appelle le PERP, qui permet de faire un petit peu de retraite par capitalisation.
Le PERP.
Il s'appelait le PERP avant, maintenant c'est le PERP, c'est vrai. Je veux dire, la plupart des Français, c'est populaire, enfin, le nom dit populaire, mais sauf que les classes populaires ne peuvent pas se permettre ça. Parce que c'est avec le surplus que tu fais ça.
Et vous savez ce qui me choque, moi? C'est qu'il n'y a pas une femme qui nous a appelés. Il n'y a pas une femme qu'on a eue au téléphone pour nous dire, moi je voudrais une retraite un an plus tôt que les hommes.
On en a eu
moi,
hier.
Vous en avez eu hier. C'est une bonne nouvelle, d'accord. Mais tu vois, aujourd'hui on n'en a pas, et c'est toujours le problème qu'on n'évoque pas assez, le problème des femmes qui toute leur vie, de toute façon, auront un hiatus, une différence de traitement avec les hommes. Et comme on vit en plus plus longtemps, c'est nous qui nous occupons de vous après dans votre vieillesse, vous vieillissez.
On est obligés, nous.
On peut partir avant.
Vous avez vu le tweet de Michael Young? Vous l'avez vu ou pas?
Oui, sur sa mère.
Sa mère, qui faisait 75 ans, elle s'occupe de mon père, elle s'occupe des petits-enfants, elle s'occupe de... Et c'est exactement ce que je vis avec mes parents, moi aussi. Et ce qu'on vit tous, finalement.
Mais ça, c'est pas parce que t'es une femme.
Les femmes vivent 7 ans plus longtemps que les hommes. Donc, à la base...
Ne dis pas trop, parce qu'après, nous, les hommes, on va réclamer un peu plus de retraite, puisqu'on peut en profiter moins longtemps.
Et on va pas se plaindre de nous.
Attention à ce petit jeu.
De tout, Emma. C'est pas possible. Tiens, c'est pas une femme qui nous appelle, mais c'est Christophe. Mais son point de vue, on va l'écouter quand même, Emma. Christophe, qui nous appelle de Vers-Saint-Denis, en Seine-et-Marne. Bonjour, Christophe.
Bonjour, Apolline. Bonjour à toute l'équipe.
Là, c'est un festival. Donc, c'est ni les grandes gueules, ni Apolline. Moi, c'est Estelle.
Estelle. Oui. Excusez-moi, Estelle.
Bon, c'est pas grave, vous savez, Christophe, il n'y a aucun problème. Christophe, vous êtes plutôt pour des blocages, à partir de samedi.
Ben, je serais même plutôt pour une mini-révolution, carrément.
Ah oui, d'accord, mais comment ?
Mini-révolution, c'est quoi ?
Une mini-révolution, écoutez, comme disait un auditeur il y a quelques minutes, ça nous rappellerait un peu 1789. Il faudrait que nos politiques prennent un peu conscience de ça, parce que les avantages, ils les ont bien, eux, avec leur cumul de mandats. Est-ce que eux sont prêts à abandonner leur cumul de mandats ?
Mais non, mais il y a plus de cumul de mandats, donc...
C'est fini depuis longtemps.
C'est fini,
mandat,
hein, le cumul des mandats, Christophe.
Vous pensez au cumul des retraites, c'est ça ? Au cumul des retraites des parlementaires.
Alors, voilà.
Effectivement, c'est un sujet sur la table. L'Assemblée nationale est plutôt pour le faire. Le Sénat, beaucoup plus réticent, mais vous avez raison. La bonne marche, ce serait qu'effectivement, tout le monde soit au même régime. Le problème que j'entends dans votre propos, c'est que quand on lance une révolution, c'est difficile de dire qu'elle sera mini au début. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, quand on lance une révolution, jusqu'où elle va s'arrêter. Et c'est ça qui peut être très dangereux, je pense.
Mais c'est quoi pour vous une mini-révolution, Christophe ? Ça veut dire quoi ?
Bah écoutez, vous savez, tout le monde s'est écœuré quand les manifestants, les gilets jaunes, s'en sont pris à l'Arc de Triomphe, symbole national. Oui, je vous rappelle qu'en 1789, on a démonté la Bastille pierre par pierre.
Oui, non mais d'accord, enfin, c'était moins joli comparé 1789 avec les gilets jaunes. Enfin, moi je veux bien tout, Christophe, mais pas ça quand même.
Bah écoutez, madame, moi je suis arrivé à un point, il y a 10 ans de ça, j'étais soldat. Je dis merci à monsieur Sarkozy pour la réforme de l'armée. Vous voyez, j'ai été sorti des rangs au bout de 10 ans.
Oui.
Au jour d'aujourd'hui, il faut travailler 47 ans pour toucher, on ne sait même pas déjà si on touchera quelque chose.
Oula, ouais, non, mais là, je pense qu'il y a pas mal, il y a pas mal d'amalgames, parce que 47 ans, ça me paraît beaucoup, Christophe.
Après, il y a une pension de soldat, hein.
Oui, exactement. Et normalement, on peut partir un petit peu plus tôt à la retraite. Oui. Mais est-ce que, détruire, casser, taguer l'Arc de Triomphe, c'est la bonne solution? Là, je pense que, majoritairement, en tout cas, les Français sont contre, et c'est pas du tout ce que veulent, les manifestants. Merci, Christophe, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va terminer avec Alain. Et vous avez raison, Emmanuel, toujours pas de femmes, au standard, mais parce que les femmes travaillent. Alain, qui nous appelle d'Albertville. Bonjour Alain.
Alain, bonjour.
Alain. Bonjour.
Ah, Alain n'est plus avec nous. Alain qui est retraité et qui manifestera également samedi. En tout cas, par rapport aux appels qu'on a reçus depuis ce matin, même depuis hier, on a l'impression qu'énormément d'auditeurs, de téléspectateurs veulent aller manifester samedi. Et c'est peut-être ça la solution d'ailleurs, plutôt que de manifester pendant la semaine, c'est de mettre le paquet sur le week-end, Fred, samedi et même dimanche. Oui. Sur les gilets jaunes, on les voyait sur les ronds-points aussi le dimanche.
Et d'ailleurs, le discours des organisations syndicales hier, en constatant le moindre chiffre de mobilisation, disait oui, mais de toute façon, ce qui compte, c'est samedi. Alors, quelque part, ils prennent un gros risque aussi, parce qu'en misant tellement sur samedi, jamais il n'y a pas un chiffre spectaculaire, et puis, on en parlait hier, mais j'ai beaucoup réfléchi à ça, en fait. Oui, Dijon, c'est important, ma ville, Arras, c'est important. Mais c'est à Paris qu'il faut qu'il y ait du monde. La grande image, il faut qu'elle soit Paris. C'est-à-dire les gilets jaunes, qui sont pas une référence, quand ça a marqué, aussi, c'est quand.
Et en plus, il y aura des trains.
C'est quand il y aura Paris, voilà. Donc, il faut une grosse image à Paris pour que vraiment il y ait l'impression.
Fred.
Parce que le chiffre de 2 millions répartis sur toute la France, si ça se voit pas à Paris.
Si t'as 1 million à Paris, là, c'est gagné.
Départ en vacances, hein.
Eh oui.
Tout le monde ne part pas en vacances.
Je suis la première, c'est la situation actuelle. Je suis la première à partir. Mais un jour de départ en vacances quand même.
Oui, mais départ en vacances, c'est pas forcément aller au ski dans un 5 étoiles. C'est aussi aller emmener les enfants à la campagne chez les grands-parents, etc. Donc il y a plein de gens qui doivent s'occuper de leurs enfants.
Mais ça fait d'autant moins, je veux dire, de manifestants. C'est ça que je veux dire.
Alors, Rémi, on va terminer avec des messages et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Un message de Elvis qui nous dit « Bonjour l'équipe, j'ai manifesté hier, et ainsi que le 19 janvier. Franchement, je suis d'accord pour une montée en puissance, car sinon le gouvernement ne nous écoutera pas. » Mais enfin, Elvis ne dit pas quelle montée en puissance.
Oui, c'est ça, personne ne dit rien. Bon. Ouais. On a fait une consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. Est-ce que bloquer est la dernière solution, Rémi ?
C'est non, mais c'est un non serré qui l'emporte. Non pour 53% des personnes qui se sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ah oui, donc c'est un peu dans la marge, dans la marge d'erreur. On va continuer à parler manifestation dans un instant. Vous savez que à chaque fois, quand on parle de manifestation, on dit 3 millions selon la CGT, 500 000 selon la police. Ouais. Heureusement, on a Anthony Morel qui va nous dire comment faire pour compter vraiment les manifestants lors d'une mobilisation. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 49 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et on va se poser une question avec vous, Anthony. Comment en finir avec l'éternel grand écart de chiffres lors des manifestations? 500 000 selon la police, 3 millions selon la CGT. On ne sait plus qui croire, Anthony. Heureusement, vous êtes là.
Il faut me croire moi, en fait, c'est ça.
Exactement.
Non, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Alors, peut-être que la solution vient de la technologie, de l'intelligence artificielle notamment. Si on regarde hier, par exemple, tiens, à Paris, les chiffres, c'était 57 000 manifestants selon la police, 400 000 selon la CGT et 60 000 donc selon l'intelligence artificielle avec ce fameux cabinet Occurrence dont on parle beaucoup, hein, dont les chiffres sont repris par les médias. Alors assez contesté, on va en reparler. Je vais vous expliquer comment ça se passe rapidement. En gros, la police, ce qu'ils font, eux, c'est du comptage avec un petit appareil comptage manuel. Clic, 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 clic.
Ah, comme dans l'avion.
Ouais, c'est un peu ça, exactement. D'accord. Voilà. Et donc, ils font ensuite une extrapolation. Ils se mettent sur une ligne et ensuite, ils extrapolent. Les syndicats, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils ont, en gros, ils vont faire une extrapolation à partir du nombre de personnes par mètre de carré occupé.
Et après, ils multiplient par 4.
Et après, voilà, ils multiplient. Voilà, ils font. C'est des estimations, on va dire, un petit peu au doigt mouillé. Et c'est là qu'on peut dire que la technologie, elle a quand même un atout à faire valoir. Parce que cette technologie-là, Occurrence, donc en fait, c'est Eurekam, ça s'appelle cette technologie. En gros, c'est on met deux capteurs dans la rue, de deux côté d'une avenue par exemple, à 8 mètres de hauteur, on relie ça à un ordinateur et ça va créer une sorte de ligne virtuelle, comme une ligne d'arrivée. Et à chaque fois qu'une personne franchit cette ligne, bah c'est un peu comme le photo finish quand il y a un sprint, la personne, tac, est comptabilisée à chaque fois. Donc ça peut...
Mais si vous reculez...
Non, normalement, c'est pas pris en compte. Si vous reculez, si vous revenez en arrière, vous n'êtes pas pris en compte deux fois. Normalement, c'est pris en compte par l'intelligence artificielle.
Okay.
Alors, elle n'est pas parfaite. Il y a un biais, a priori, une marge d'erreur de 10%. Il y a des petits problèmes. Par exemple, les parapluies, ça trouble apparemment l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'il y a un affinage humain, c'est-à-dire qu'à certains moments où la manifestation est la plus dense, on va filmer pendant 20 à 30 secondes et ce sont des humains qui vont recompter manuellement et ça va permettre d'affiner l'algorithme. Et normalement, en cumulant l'homme et la machine, eh bien on se retrouve avec un chiffre qui alors n'est pas parfait à l'unité près, mais qui est globalement plus précis que ce qu'on peut avoir par ailleurs.
Il faut remonter votre micro, Anthony. Mais est-ce que c'est vraiment efficace quand même? Parce qu'à chaque fois, les manifestants, ils remettent en cause ces chiffres.
Ouais.
Là, par exemple, encore une fois, vous nous dites, hier, à Paris, 60 000 personnes selon l'occurrence, 400 000 pour la CGT. Il y a quand même une grosse différence.
Ben,
quoi. On n'est pas sur une marge de 10%.
Et surtout, souvent, là, par exemple, la manifestation de la semaine dernière, leurs chiffres étaient même en dessous de ceux de la police, qui général sont plutôt considérés déjà comme prudents. Donc, il y avait un problème. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont assumé le truc, ils se sont dit, non, on a tout recompté à la main. Comme il y a eu une polémique,
bah,
et on est retombé sur le même chiffre. Alors, ils étaient partis à 55 000 et ils sont arrivés à 60 000. Donc, on est dans la marge d'erreur, mais en gros, ils disent non, on s'est pas trompé. En fait, l'erreur, elle vient du fait que les syndicats et la police et l'intelligence artificielle, ils calculent pas exactement la même chose. En fait, le problème de ces outils technologiques, c'est qu'ils sont à un endroit fixe. Or, une manifestation, c'est un mouvement fluctuant. Il y a des gens qui viennent, par exemple, je sais pas, aller boire un verre, revenir, ou qui vont rejoindre le cortège à un endroit précis, mais qui a pas été comptabilisé sur ce point fixe. Donc, en gros, c'est une question, j'allais dire, presque philosophique derrière. C'est qu'est-ce que c'est qu'un manifestant? Est-ce qu'une personne qui rejoint le cortège pendant 5 minutes et puis qui part, il doit être comptabilisé? Mais le problème de ces outils, c'est qu'ils ne le comptabilisent pas. Donc, en fait, on compte pas la même chose. C'est ça problème.
Mais excusez-moi Anthony, mais on est en 2023.
Oui.
Il y a ChatGPT, il y a tout ça. On n'est pas foutu de trouver une méthode pour compter exactement le nombre de personnes.
Alors il y en a, mais elles vont peut-être pas vous plaire. En tout cas, elles plairont pas à tout le monde parce qu'il y a toujours cet équilibre à trouver entre l'efficacité technologique et la société de surveillance. Je vous donne deux méthodes qui fonctionneraient très bien. La première, c'est le bornage des téléphones. Borner les smartphones. C'est des données qui peuvent être facilement anonymisées. Je veux dire, c'est pas très compliqué. C'est tout à fait possible. Et là, vous avez à l'unité près toutes les personnes qui passent et qui ont un téléphone portable, donc une grande majorité des gens, ils sont comptabilisés. Ça, il n'y a pas de problème.
Mais donc le policier qui fait juste la sécurité, il est comptabilisé aussi?
Alors oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Demandez-moi pour trouver
d'accord,
des biais.
Mais il y en a quand même. Vous enlevez les 12 policiers qui font la surveillance et puis après, c'est bon. Normalement,
ça ne marche pas. Deuxième méthode,
ce sont les drones. Les drones qui peuvent.
C'est très bien ça.
Ben, c'est oui, enfin pareil, en termes de surveillance, on peut se dire.
On voit
c'est
que des crânes, on peut pas vous. A priori, le drone,
il y a certains crânes qui sont reconnaissables. Non, mais c'est une solution.
Pourquoi on fait pas ça?
Parce que là encore, pour des questions de respect de la vie privée, on estime que c'est de la
surveillance.
On peut pas vous reconnaître. On savait rien, c'est-à-dire que c'est quand même c'est pas de la reconnaissance faciale, mais c'est quand même un outil qui va filmer en permanence des gens qui sont en train de manifester.
Ouais, mais si les données s'effacent quasiment immédiatement, on est bien.
Je pense que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté,
elle laissera pas passer.
Mais c'est ce que je dis. Il y a des solutions efficaces.
Pour les drones.
Elles existent, mais encore faut-il les adopter.
On parle de quoi demain, Anthony?
Demain, je vais vous présenter un programme télé, une série qui est diffusée au Royaume-Uni, qui est assez incroyable. Qui a un casting complètement dingue, toutes les stars du monde entier. Sauf que elle ne joue pas vraiment dans la série. C'est des deepfakes. C'est en gros, on reconstitue l'image de ces personnes en intelligence artificielle.
Waouh, ça va me plaire.
Ah, ça va pas vous plaire?
Non.
Pourquoi?
Non, je n'aime pas ces.
Ah, ça vous fait peur?
Je n'aime pas le progrès. Mais j'aime beaucoup votre chronique. Qu'on peut dire retrouver tous les jours et à chaque heure du jour et de la nuit en podcast, bien sûr, sur l'application RMC, sur rmc.fr et sur toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on va parler du record du jour, celui de Total, 20 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce qu'il faut taxer les super profits en France? Ça, tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.